C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je commence ce matin par cette annonce que va faire le ministre de la Santé, Christian Dubé, au sujet de la nouvelle façon de procéder pour ce qu'on qualifie de super infirmière. Il y en a déjà qui pratiquent, évidemment. On a négocié un champ d'action pour ces infirmières qui peuvent faire des suivis. La différence, c'est qu'elles sont supervisées par un médecin qui reçoit une prime. Et ce que le ministre va annoncer, c'est qu'elles vont pouvoir prendre en charge des patients à partir du fameux guichet sans avoir à relever d'un médecin. Et donc, pour le moment, il y a un certain nombre d'entre elles qui sont déjà sur le terrain, qui vont pouvoir le faire. Mais il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. D'ailleurs, je suis allé fouiller un peu et on a découvert que le 26 mars 2017, ça fait 7 ans de ça, 7 ans, Québec annonçait 2000 infirmières praticiennes spécialisées d'ici 2024-25 pour donner des soins de santé. Et ça fait 7 ans de ça. On est loin de la cible, parce que quand vous regardez le nombre, on pense être capable, d'ici les prochaines années, là, d'ajouter 1000 nouvelles professionnelles. Alors, vous voyez que les annonces en santé, souvent, se répètent, mais la question fondamentale, est-ce que, en leur donnant ce nouveau statut, elles vont aussi avoir des obligations? Exemple, superviser combien de patients par rapport à un médecin? Ça, c'est un exemple. Les heures de disponibilité, est-ce qu'on va avoir un accès plus large? Est-ce qu'elles vont devoir prendre plus de patients qu'elles ne le font actuellement, faire un suivi? Elles vont référer, quand ça dépasse leur niveau de compétence, à un autre professionnel de la santé, peut-être un médecin spécialiste. Donc, comment tout ça va fonctionner? Alors, on va en parler avec le ministre plus tard ce matin. Et on a parlé il y a quelques instants d'un féminicide. Dans Le Devoir, vous avez des chiffres qui sont de Statistique Canada sur les refuges pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est le Québec qui a enregistré le taux d'occupation le plus élevé dans ces refuges en 2023. Et là, ce qu'on fait, il y a différentes façons de calculer, mais en gros, là, on se rend compte qu'il y a, au Québec, énormément de femmes qui se retrouvent dans les refuges et qui passent beaucoup de temps dans les refuges. On parle de semaines et dans certains cas de mois. Vous avez dans des endroits un taux d'occupation de 103%. Et la réalité, c'est que vous avez donc femmes et enfants qui, dans un contexte de violence conjugale, ne savent pas où aller et finissent par arriver dans ces fameuses maisons. Et là, on peut reprendre le débat sur le coût de ces maisons, le fameux 1 million par porte, là, ou 900 000 ou 800 000, peu importe. Là. Je comprends qu'on doit faire des exercices comptables, mais il y a une réalité. C'est que force est de constater que cette violence, on le voit avec le nombre de femmes victimes de meurtres, de femmes victimes de coups. Encore le Journal de Montréal qui raconte ce matin un gars qui voulait se débarrasser de sa femme pour des raisons d'argent puis parce qu'il y avait une maîtresse. Ça ne s'est pas atténué. Et ces besoins-là sont criants. Faut, je pense, entendre ce que ces regroupements ont à dire parce que c'est une réalité. L'autre chose, en parlant de refuge. Hier, je vous ai parlé de la situation pour la mission Old Brewery qui a ouvert un refuge d'urgence pour les personnes itinérantes. Et à partir de lundi prochain, il faut relocaliser ces personnes. Il y en a à peu près 150. Et là, on va le faire progressivement. Mais de l'aveu même de la responsable du programme, qui est avec nous, un certain nombre, parce qu'ils ne veulent pas aller dans les refuges traditionnels, là, ils se sentaient bien. Tout ça avait été aménagé. Et là, on va les sortir progressivement. Puis on le sait, pénurie de logements. On dit qu'on a trouvé d'autres endroits pour les héberger. Mais là, je me suis posé la question. Si tu as 150 personnes qui sont bien, qui, dans certains cas, ont même la présence d'animaux, il y a des enjeux de mobilité, mais pourquoi est-ce qu'on les sort? Pourquoi ce refuge-là doit absolument fermer ses portes. Alors, on a contacté le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, qui nous dit qu'on a informé dès l'été qu'il y aurait une fermeture. C'est pas une explication, là, de dire que, oui, oui, ils savaient. La question, c'est pas ça, c'est pourquoi? Pourquoi vous les mettez à la porte? Puis pourquoi vous avez besoin de ces espaces? Et là, on dit que l'argent qui servait à financer les places à l'Hôtel-Dieu va servir à financer des places mieux adaptées pour la clientèle. Ça, là, ça s'appelle de la bullshit. Parce que il y a des gens qui ne vont pas dans les refuges. Puis là, on nous fait croire qu'on va mieux financer d'autres services. Et là, ce qu'on découvre, c'est l'une des options. On veut prendre l'espace occupé par les itinérants pour potentiellement, c'est une possibilité, là, rapatrier des employés qui travaillent dans des locaux pour une meilleure gestion des fonds publics dans des locaux où c'est loué ailleurs. On met des itinérants dehors pour rentrer la bureaucratie. Comprenez que le scepticisme peut, disons, s'installer face à des besoins. Hein? On a le métro qui déborde de gens qui ont des problématiques nombreuses. On a des gens qui sont sur la rue. Quand mon ami Lagacé parle d'hôpital psychiatrique à ciel ouvert, il a parfaitement raison. Et c'est en croissance, le nombre de plaintes dans le métro, dans les autobus, le type d'intervention de la police de Montréal. Puis pendant ce temps-là, vous avez un refuge qui existe. Oui, mais on leur a dit que c'était temporaire. Comprends? Mais pourquoi c'est temporaire? Si tu as 150 personnes qui sont bien à cet endroit-là, pourquoi faut amorcer un processus pour les déménager, pour les remplacer par des fonctionnaires? Je veux dire, ça tient pas la route deux secondes, mais c'est la version qui nous est donnée par le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Maintenant, on va parler d'immigration parce que la ministre Fréchette, Christine Fréchette, a dit « Voici les attentes du Québec ». Et c'est assez spécial parce que d'un côté, il y a une menace d'un référendum, puis de l'autre, on nous dit que les progrès dans les discussions sont quand même assez importants, puis qu'il y a une date butoir qui est le 30 juin prochain. Donc, on veut, par exemple, avancer pour mieux contrôler le nombre de demandeurs d'asile, les gens qui sont ici avec un statut de travailleur temporaire, des non-permanents. Encore là, je vois pas comment un référendum va changer quoi que ce soit. Un référendum, comme on dit, sectoriel, puis on va demander quoi aux Québécois? Voulez-vous que le Québec ait tous les pouvoirs? Qui va se retrouver dans le comité du non? Là, j'ai vu que M. Saint-Pierre Plamondon dit « Je serai avec le premier ministre dans le camp du oui ». OK, mais qui va, si on a un référendum, qui va aller porter le ballon pour le non? Je veux dire, les fédéraux? C'est, en tout cas, mécanique qui, d'après moi, est un petit peu tordue quand même. Mais il y a une volonté, disons, et les deux paliers de gouvernement sont responsables du chaos en immigration. Puis le fédéral avec ses cibles, puis le Québec avec le fait qu'il a émis beaucoup, beaucoup, beaucoup de certificats, puis là, tout le programme de la réunification des familles. C'est pas normal que ça prenne 33, 36 mois, 4 ans, avant qu'un père puisse voir son fils, sa fille. Il y a quelque chose, là, en termes de lenteur qui concerne les deux paliers de gouvernement. Alors ça, c'est la ministre qui a parlé de ça. Et j'ajoute ce matin dans la presse, dernière note sur ce sujet-là, ils ont installé des caméras à Akwesasne pour détecter les passeurs, donc des migrants illégaux qui se poussent vers les États-Unis. On se souvient, il y a un an, il y avait eu cette terrible tragédie, alors qu'il y a un réseau de passeurs qui avait organisé une espèce d'excursion en bateau. Et malheureusement, donc, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient perdu la vie. Il y avait 9 personnes, dont 2 jeunes enfants, quand le bateau a chaviré, qui sont décédés. Puis on a découvert que c'est un réseau en provenance de l'Inde, chapeauté par des Indiens. La presse donne tous les détails là-dessus. Et là, ils veulent être capables d'avoir des preuves, puis de casser ce réseau. Puis à quoi ça se n'est? Ben, c'est à cheval sur l'État de New York, le Québec et l'Ontario. Et ça dérange les criminels qui tentent de saboter les caméras de surveillance qui ont été installées. Quand on parle de la confrontation entre le Québec et le gouvernement Trudeau au sujet de ces programmes à coups de milliards qui ont été annoncés et qui sont directement dans les compétences du Québec, ben il n'y a pas que le Québec. Et je vous donne l'exemple ce matin de l'Alberta. La première ministre Danielle Smith, qui dit, moi j'en ai plein mon casque, de voir le gouvernement fédéral faire des ententes avec des entités créées par le gouvernement, c'est-à-dire avec les villes. Puis on sait que ça, c'est l'approche du gouvernement Trudeau. C'est je passe par-dessus la province et je dis aux villes, je vais vous financer pour les infrastructures, pour le logement. J'ai pas besoin, là, de passer par le gouvernement du Québec. Elle a décidé de bloquer ça par un projet de loi qui permettrait de casser ce genre de financement, qui interdirait aux villes de le toucher. Puis là, vous allez me dire, on s'en fout des chicanes de juridiction. En autant que l'argent est là pour qu'on puisse construire des logements et des infrastructures. C'est vrai. Je suis pas sûr que c'est une grande préoccupation, là. Quand les gouvernements se chicanent, on veut juste que l'argent soit dépensé. Mais je veux juste montrer que c'est pas qu'un affrontement entre le Québec et le fédéral, mais que les autres provinces sont également concernées par ça. M. Trudeau, qui a témoigné hier devant le comité, la commission là, sur l'ingérence étrangère, donc nommément la Chine, il a dit, c'est clair que les Chinois ont voulu s'ingérer, mais ça n'a pas donné de résultat. Et ce qu'il dit, c'est que, et je comprends là, qu'il dit que ça n'a pas changé le résultat parce qu'il a gagné les élections, et pour lui, la Chine a échoué. Je rappelle que chez les conservateurs, l'ancien chef dit que les conservateurs ont probablement perdu par toutes sortes de manigances pour influencer le scrutin, notamment des pressions exercées sur des ressortissants chinois qui vivent au Canada. Des pressions, là, je devrais même parler de menaces. Alors, il dit, en plus, les informations qui nous sont transmises par le Service canadien de renseignement et de sécurité, ils font en prendre puis en laisser. Dans le sens, il n'a pas dit ça tout à fait comme ça, mais il a dit, il faut des fois mettre des bémols, l'information peut varier. Et il dit, je ne vois pas pourquoi les Chinois auraient préféré le Parti libéral du Parti conservateur. On va en reparler tantôt avec Jean-François Lépine. Ça va être important de faire un retour dans le temps. À quel moment on a commencé vraiment à s'interroger sur l'ingérence de la Chine? Je rappelle aussi la visite du premier ministre français, Gabriel Attal, qui sera au Québec pour faire un discours. Et il y a, bien sûr, cette discussion qu'il a avec M. Trudeau concernant l'accord Canada-Europe. On sait qu'en France, c'est le Sénat qui l'a bloqué. Mais c'est très théorique d'une part. Et il faut dire en passant que c'est la France qui profite le plus de cet accord de libre-échange économique. Mais avec la crise en agriculture, il y a un certain courant, disons, populiste qui fait qu'on veut, on pousse le message que ces ententes, évidemment, qui impliquent plusieurs pays, ben c'est au détriment de l'industrie locale. Et c'est pas dans les faits tant au Canada que ça se joue, mais souvent avec d'autres pays de la communauté européenne où il y a du dumping de produits. Autrement dit, donc, il y aura cette rencontre-là aujourd'hui. Dans les nouvelles économiques, la Banque du Canada qui maintient son taux directeur à 5 % et hier, la banque a dit, je peux pas rien vous promettre, là, mais ça regarde bien. L'inflation tombe un peu plus sous contrôle et ça pourrait laisser percevoir une baisse graduelle du taux directeur et donc des taux d'intérêt, peut-être quelque part durant l'été. Ça sera pas là à vitesse, disons, grand V, là, mais ça va se faire et on peut anticiper d'ici la fin de l'année un certain soulagement sur les taux d'intérêt. Dans la presse ce matin, c'est un débat qui est intéressant. On parle pas de fortune, mais quand même. Il y a des restaurateurs qui disent, pour baisser la facture, si vous nous payez comptant ou avec une carte Interac, on va baisser votre facture de 2 %. Donc, sur 100 $, c'est 2 $. On comprend que c'est pas énorme. On sait que pour les restaurateurs, l'utilisation de cartes de crédit, les frais, ça représente beaucoup d'argent par mois, puis ça peut faire une énorme différence. Et il y a ce mouvement qui tente de regrouper beaucoup de restaurateurs en disant, on est tanné de payer ce que nous demande Mastercard, ce que nous demande Visa. Et vous avez le propriétaire de la brasserie Saint-Boc à Montréal, Martin Guimond, qui dit, sur la facture de 100 $, moi, je suis prêt à vous remettre un 2 $. Est-ce que les gens vont embarquer là-dedans? Peut-être. Et ça peut se faire. C'est sûr que l'argent comptant, là, ça n'existe pratiquement plus. Hein? On a souvent parlé avec Pierre-Yves, là. C'est rare en maudit. D'ailleurs, les statistiques le montrent, l'utilisation de la carte plastique, c'est partout, partout, partout. Même avec votre téléphone intelligent, vous êtes capable de payer. Autrement dit, les guichets pour retirer de l'argent, oui, dans certains cas, il y a encore des endroits là où tu vas puis c'est payé comptant seulement. Mais c'est de plus en plus rare. Et toujours dans le volet économique, des chiffres concernant la vente en ligne. Et ça, c'est important parce que on a vu l'effondrement du panier bleu qui n'a jamais levé. Là. Et c'est Amazon qui domine largement le marché québécois. Puis on a les yeux, là, puis on les voit, les camions d'Amazon, se promener. Alors, les chiffres dans la presse ce matin montrent qu'actuellement, Amazon a 51% du marché au Québec d'achat en ligne. La part des marchands québécois sur le web, qui avait atteint 26% en 2022, est retombée à 15%. Donc, la vente locale est en baisse. L'achat local diminue. Et vous avez même, en termes de vente, là, 16% de l'argent qui est dépensé en ligne, ça va vers d'autres marchés canadiens, et 18% à l'étranger. Ça va pas bien pour la vente locale. On fera un débat, j'imagine, des explications. Mais le réflexe qu'ont les Québécois, c'est d'abord Amazon, une fois sur deux, et on dépense beaucoup, là. C'est des centaines de dollars par année en moyenne que chaque Québécois dépense en ligne pour toutes sortes de transactions.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Ce matin, je vais vous parler d'un cas très délicat, puis vous allez comprendre l'impact. D'abord, c'est rare, mais en même temps, ce qui se passe pour Mme Danielle Duranceau est très lourd de conséquences. Alors, je résume en quelques mots. Il y a deux semaines, son conjoint a quitté la maison. Il n'est jamais revenu. Son véhicule a été retrouvé près des écluses de Beauharnois. Des policiers ont été informés, bien sûr. Il y a eu des recherches et on n'a pas localisé le corps de son conjoint. Elle a des responsabilités financières importantes avec une hypothèque, des travaux, et elle n'a pas accès au compte bancaire de son conjoint. Elle est avec nous ce matin. Madame Duranceau, bonjour.
Bonjour.
Je sais que c'est extrêmement difficile, mais je pense que c'est important, vous m'avez écrit, de pouvoir partager ce que vous vivez. Ça va peut-être faire débloquer un certain nombre de choses. Si on résume donc, votre conjoint a quitté et depuis ce temps, vous n'avez pas eu de nouvelles, il n'y a pas d'activité sur ses cartes de crédit, par exemple.
Non, rien. Les policiers ont été voir, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Je suis dans l'attente. Il faut trouver un corps, puis s'il n'y a pas de corps, ben je peux rien faire.
OK. Quand vous me dites « je peux rien faire », là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Là?
Ça veut dire que pour eux autres, pour la banque, ben il n'est pas mort, il est parti prendre une marche, mettons. Puis ça veut dire que j'ai pas moi, ce que j'ai demandé, vu que c'est un compte conjoint, ben on me dit que je suis responsable. Là, mon problème, c'est que je peux pas mettre la maison en vente, je peux rien faire, j'ai pas accès à rien. Je peux comprendre là, que j'ai pas accès à son compte, mais ce que je demande, c'est que on m'aide à trouver une solution pour que je puisse payer, si tu comprends. Pour que je puisse payer. Le fait, c'est que c'est pas que je veux pas payer, je veux payer. Mais j'ai pas, comme on dit, les reins solides pour assumer les deux hypothèques. C'était pas ça le projet. Le projet, c'était à deux. Fait que je suis dans l'incompréhension qui trouve pas de solution pour des situations extrêmes comme ça. Je comprends pas.
Pour que les gens comprennent aussi là, votre profil financier, quand vous dites les hypothèques, vous aviez amorcé des travaux de rénovation aussi pour une nouvelle maison.
Oui. Oui. On était en rénovation. C'était presque terminé. Et je dois continuer puis les finir, les rénovations, hein, pour pouvoir vivre dedans, parce que j'ai pas le choix d'aller vivre dedans. Il y avait sa part d'hypothèque, puis j'avais la mienne. On déposait dans le compte conjoint pour faire notre part d'hypothèque, là, déjà chacun de notre côté. Tu sais.
Bon, vous faites affaire avec la Banque nationale. J'imagine que vous avez exposé votre situation. Qu'est-ce qu'on vous a répondu?
En fait, On m'a répondu que s'il y avait quelque chose à faire, qu'il me retournerait qu'il m'appellerait me dire s'il trouvait quelque chose à faire, mais que s'il y avait rien à faire, il n'y aurait pas d'appel. Puis j'ai pas eu d'appel. J'ai pas eu de retour.
Est-ce que je comprends que la seule chose qu'ils ont accepté, c'est de modifier la fréquence de vos paiements hypothécaires?
Oui, c'est ça.
C'est...
En fait, mon conjoint, il payait aux 2 semaines. Puis là, ils ont accepté de que ça soit au mois, tu sais. Ça a baissé de quelques dollars. T'sais.
Donc, ce que vous me dites, dans le fond, c'est que vous êtes dans l'attente et que vous avez les factures qui entrent puis que vous ne pouvez rien faire.
C'est ça, exactement. Puis je trouve ça incompréhensible, le manque d'empathie, là, de je veux pas partir en guerre, c'est pas du tout mon but, là, c'est juste de m'alléger, tu sais, de me trouver une solution pour que je puisse passer à travers ça. Je sais pas quoi faire. Je me suis dirigée vers vous parce que je m'excuse, là, je sais pas, un peu.
Non, mais je comprends, là. Mais c'est important parce que, puis on va essayer de vous aider comme on peut, mais c'est clair que là, vous avez une pression, puis vous l'avez dit, vous voulez payer vos affaires, vous avez juste besoin d'un réaménagement pour que le temps fasse son œuvre, puis qu'on puisse avoir d'abord des nouvelles de votre conjoint, puis en même temps de dire, à partir de maintenant, voici ce qu'on pourrait faire.
Oui, c'est exactement ça. Ça me enlèverait un certain poids sur mes épaules, là, présentement.
Okay.
Parce que en plus de vivre toute la compréhension puis la culpabilité de tout, c'est ça.
OK. Merci, Mme Duranceau. On va vous tenir au courant. Daniel Duranceau, c'est évidemment assez récent en plus, là, c'est le 26 mars, et tu n'as pas de nouvelles. Alors déjà, c'est un stress, c'est de la peine, c'est de la tristesse, des inquiétudes, et arrive cette réalité financière. Et là, on s'est posé la question... Est-ce que ce sont des cas qui reviennent de temps en temps? Est-ce que c'est rare? Maître Éric Lavoie est avec nous. Il est notaire associé chez Novalier. Maître Lavoie, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce genre de cas? Est-ce que c'est rare? Est-ce que ça arrive?
Bien, je veux dire, malheureusement, oui. Puis j'envoie des ondes positives, Mme Duranceau. Je sais que c'est pas évident, là. C'est une situation, en plus, quand le financier se mêle à tout ça. Mais oui, ça arrive quelques fois, mais ça demeure quand même assez rare. Mais il y a des choses prévues à l'intérieur de la loi pour ce genre de situation-là. En fait, c'est l'absence. Hein? Quand on pense que quelqu'un est peut-être décédé, puis c'est le cas, là, je comprends de la situation là, avec le conjoint de Mme Duranceau, on n'a pas de nouvelles de cette personne-là, on peut ouvrir ce qu'on appelle une tutelle à l'absent. C'est-à-dire nommer quelqu'un qui va administrer les biens de l'absent jusqu'à ce qu'on en sache un peu plus ou pendant une période de 7 ans. Hein, parce que l'absent est présumé décédé, là, si on n'a vraiment pas de ses nouvelles au bout de 7 ans. Mais donc, il y a déjà un régime de prévu à l'intérieur de la loi là pour venir pallier ou permettre d'administrer les biens de l'absent jusqu'à ce qu'on ait de ses nouvelles.
Là. OK, mais mais 7 ans, vous le dites, on peut manœuvrer à l'intérieur de ce délai. De quelle façon Mme Duranceau peut faire ça?
Ben écoutez, pour aller voir un conseiller juridique, notaire ou avocat, là, pour se faire guider, s'orienter là-dedans. Mais un peu comme quand quelqu'un est inapte, je vais essayer de faire un petit parallèle à ça. Quand quelqu'un devient inapte, on doit lui nommer un représentant légal pour gérer, administrer ces choses. C'est un peu le même principe prévu à l'intérieur de la loi pour dire, ben écoute, s'il y a quelqu'un, on n'a pas de ses nouvelles, on pense qu'il est décédé, ben on va lui nommer quelqu'un, un tuteur, pour justement gérer ses biens. Donc la loi prévoit qu'on va faire une assemblée de parents d'alliés ou d'amis, c'est-à-dire qu'on va réunir les gens de la famille de l'absent et on va désigner quelqu'un parmi eux pour gérer, administrer ses biens durant le laps de temps de son absence, finalement. Mais cette personne-là, oui, va avoir accès à ses biens, à ses comptes bancaires pour prendre des décisions. On parlait de vendre la maison ou ce genre de choses-là. Donc, le tuteur va avoir ses pouvoirs-là, mais il va devoir rendre compte de sa gestion au conseil de tutelle, hein, des gens qui ont été nommés là dans la famille, ceux qui étaient présents à l'Assemblée, et au curateur public du Québec une fois par année pour être certain qu'on administre les biens de la personne absente dans son intérêt, finalement, là, pour être sûr que tout est correct.
OK. Sauf erreur, dans votre pratique, vous avez vu un cas qui s'apparente un peu à ça?
Oui, il y en a en effet. Là, j'en ai même eu deux. Hier, je parlais à votre recherchiste, là, mais j'en ai ciblé un deuxième qui s'apparente à ça. Mais là, on avait fini par obtenir un jugement déclaratif de décès. Pourquoi? C'est que si on a des preuves quand même assez fortes que la personne est décédée, on est capable d'aller devant le tribunal et demander un jugement déclaratif de décès. Donc, venir dire que finalement, les probabilités sont tellement plus fortes que la personne soit décédée qu'absente, ben on est capable d'obtenir un jugement déclaratif de décès, donc confirmer sa mort et à ce moment-là régler la succession. Le cas similaire à celui de Mme Duranceau, puis là, je sais que c'est pas évident pour elle, elle m'écoute présentement, là, mais même principe, on avait trouvé le véhicule tout près d'une décharge également, mais il y a un témoin qui avait vu la personne sortir de la voiture et malheureusement passer à l'acte, et donc c'était dans le rapport de police. Donc on a pu déposer ce rapport de police-là au tribunal et le juge a dit, ben écoutez, les probabilités sont plus fortes qu'elle soit décédée qu'absente malgré l'absence du corps. Et à ce moment-là, ben, on a obtenu le jugement déclaratif de décès. On a pu régler la succession et, c'est sûr, permettre à la famille de vivre son deuil. Parce que ça aussi, là, émotivement, c'est pas évident de savoir ce qui s'est passé réellement. Mais donc, on a obtenu le jugement déclaratif de décès. J'ai eu d'autres cas où c'était des alpinistes ou un alpiniste dans, lors d'une avalanche. Donc, on n'a pas trouvé le corps, mais les probabilités étaient tellement plus fortes qu'il soit décédé que vivant, que le juge nous a octroyé également le jugement déclaratif de décès. Donc, on a pu régler la succession aussi dans ce cas-là.
Merci beaucoup. Très éclairant, Maître Lavoie. Bonne journée.
Bienvenue. Bonne journée. Au revoir.
Maître Éric Lavoie est notaire associé chez Novalier. C'est d'une tristesse et Maître Lavoie a raison de le souligner. Bon, on parle des modalités financières, mais il y a cette pression qui est telle parce que c'est soudain, c'est récent pour Mme Duranceau, et, mais il y a aussi la perte présumé de son conjoint, c'est un deuil. Et en espérant que ces conseils-là puissent donner des résultats, puis on va évidemment garder un lien avec elle pour voir que les choses atterrissent.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Donc, dès lundi, il y a des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne qui pourront prendre en charge des personnes qui sont présentement inscrites au fameux guichet d'accès à un médecin de famille. Donc, des gens qui attendent pour avoir un médecin. Et une des nouveautés, bien sûr, c'est qu'elles pourront prendre ces patients donc à charge sans avoir à être supervisées par un médecin de famille. Christian Dubé, le ministre de la Santé, est avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur Dubé.
Oui, bonjour, M. Arcan.
D'abord, il y en a combien de ces infirmières là, qui pratiquent actuellement au Québec?
1800.
Et il y en a combien là, qui vont pouvoir prendre en charge de ces patients-là et donc essayer de rendre l'accès plus facile?
Bon, on va commencer par parce que c'est une première étape. On a en ce moment une dizaine de cliniques IPS, donc où il y a 2, 3, 4 IPS dans chacune de ces cliniques-là. Qui ne sont pas, comme vous l'avez dit, qui ne sont pas sous la supervision d'un médecin. Alors, donc, on va commencer par ceux-là, mais la plupart de nos IPS sont dans des cliniques qu'on appelle des GMR, que maintenant les gens connaissent bien. Dans les cliniques, notre objectif, c'est qu'elles puissent le faire, mais ça, il faut avoir une entente avec les médecins, puis ça va faire partie de notre entente qu'on va négocier avec les médecins dans les prochaines semaines.
Ça va fonctionner comment? Qui détermine que je vais aller voir une IPS, un médecin? Là, je passe par le guichet. C'est l'IPS qui va aller piger en fonction de ses compétences les patients. Comment ça marche?
Ben, il faut voir déjà que ces infirmières-là, ce sont des salariés, là, contrairement à nos médecins. Alors, ces gens-là sont payés par le ministère. Ils voient déjà des gens. La seule différence qui va se faire à très court terme, c'est qu'ils vont continuer de voir les gens, ils vont peut-être en voir plus, je vous donnerai quelques statistiques, mais ces infirmières-là vont pouvoir au moins dire « maintenant, j'ai la responsabilité de tel patient ». Une infirmière IPS qui commence va peut-être prendre 250 patients en charge sur un an, mais des infirmières des IPS, parce que là maintenant, ça fait plusieurs années qu'on en forme, peuvent prendre 700-800 patients par année. Alors, il faut le voir comme une grosse première étape, très important. C'est un changement de façon de travailler, un changement de paradigme. Mais il faut regarder comment ça va se dérouler dans la prochaine année. Mais l'important, c'est qu'on en forme à peu près 300 par année. Et ça, c'est si on regarde ça sur quelques années, ça va faire une très, très grande différence.
Bon, là, le ministre à l'époque de la Santé, Dr Barrette, avait annoncé en 2014 qu'on était pour compter sur 2000 infirmières IPS en 2024-25, puis que finalement, actuellement, on a pas mal moins que ça, là, qui vont donner directement ces soins-là à la population.
Bien, on n'est pas très loin. D'abord, il faut le saluer. Moi, je veux saluer deux de mes prédécesseurs, non seulement le Dr Barrette, mais aussi Mme McCann, parce que ça fait longtemps que... Je dirais tout le monde travaille là-dessus, puis je pense que c'est saluer la vision que ces gens-là ont eue avant nous. Mais pour répondre à votre question, l'objectif du Dr Barrette, quand il parlait de 2000, on est en ce moment à 1500 actuellement, mais là, avec le rythme de croisière de 300 par année, c'est 1800 l'an prochain. Fait qu'on sera pas très, très loin de l'objectif du Dr Barrette, puis j'en profite aussi pour dire que Mme McCann en 2019, lorsqu'elle a passé ce projet de loi-là, on était loin de penser que ça aurait cet effet-là d'avoir aujourd'hui une dizaine de cliniques. Donc, il faut reconnaître le travail qui a été fait dans les dernières années.
Une infirmière va voir combien de patients?
Ben, comme je vous disais, M. Arcand, je pense qu'une jeune infirmière qui vient de faire sa maîtrise va probablement commencer par 200-300 patients par année. Mettez ça par semaine, vous parlez entre 5 et 10 patients. Fait que c'est pas énorme. C'est capable de les prendre en charge. Nous, ce qu'on veut, je vous le dis, là, dans les statistiques que moi j'ai vues, il y a à peu près, dans les cliniques actuelles d'IPS, à peu près seulement 5% des cas qu'une infirmière spécialisée voit, qui est référée à un médecin. C'est-à-dire qu'elle est capable de prendre en charge la grande majorité des cas qui sont devant elle.
Alors, et là je vous le dis, je vais vous faire écho de... Je suis bombardé de commentaires de médecins, d'infirmières. Là, m'essayer de résumer ça, là. Premier commentaire, des médecins qui disent « Hey, si moi je prends 1000, 1200 patients, j'espère que les infirmières vont en prendre autant.
» Oui, mais j'ai aussi des jeunes médecins qui en prennent 500. Il faut faire attention de comparer les gens où ils en sont dans leur carrière.
Non, mais vous leur mettez une pression pour qu'il y ait une prise en charge plus importante.
Oui, mais regardez, dans nos discussions qu'on a en ce moment avec les médecins qui font, je le répète toujours, hein, font un excellent travail. Mais dans les discussions qu'on a avec eux, pourquoi on est allé à la prise en charge qu'on appelle collective? C'est parce que des plus jeunes médecins disent, moi, je veux être sûr que si je suis pas là, si je prends une journée de congé, il y a quelqu'un d'autre que moi qui va pouvoir s'occuper de mes patients. On va avoir la même approche avec les infirmières spécialisées. Je pense qu'il faut tenir compte de nos nouveaux concepts de conciliation de travail-famille. Je pense que ça s'applique autant aux IPS que ça s'applique aux médecins.
Mais est-ce qu'elles auront des cibles? Si on veut faire en sorte que les Québécois aient accès à un professionnel de la santé, là, est-ce qu'elles vont avoir des cibles, des objectifs à atteindre?
Il y a un guide là, qui a été publié où je vous dis qu'on parle d'une variation entre 250 et 1000. Alors, 1000 patients par année qui sont pris en charge. Mais je le rappelle, ces infirmières-là sont à salaire. Ce ne sont pas des infirmières qui sont, par exemple, à haut tarif que sont avec, par exemple, avec la RAMQ.
Là, ça veut dire qu'il y a des médecins qui vont devoir renoncer à leur prime de supervision?
Bien, ça va faire partie des négociations qu'on va avoir avec le Conseil du Trésor qui va commencer dans les prochaines semaines.
OK, mais s'ils ne supervisent pas, ils ne sont pas payés pour superviser.
Je vous ai répondu, M. Arcand. Ça va faire partie de nos discussions.
C'est parce que quand je parle avec le Dr Amiot, il me parle aussi de vos discussions. Puis là, cette semaine, on avait une discussion sur les fameux patients qui doivent être pris en charge. Puis là, les médecins qui se plaignent de formulaires, la bureaucratie, vous l'avez allégé avec la CNESST. Là, ils disent, vous avez un projet de règlement qui va faire en sorte que si je veux prendre un patient, puis là, est-ce que c'est le guichet 1 ou le guichet 2? Docteur Amiot, il trouve que vous compliquez les affaires.
Ben écoutez, j'ai dit le plus souvent possible que je voulais pas négocier avec personne sur la place publique, ni les infirmières dans le cas de la FIC, ni avec le docteur Amiot. Ce que je vous dirais, c'est attendons de voir la dernière version des règlements qui vont être publiés dans les prochaines semaines. Moi, j'ai écouté tous les partenaires lorsqu'on a publié ça. Autant, il y a deux grands principes dans le règlement qui arrive, là. Il y a la prise en charge des vulnérables, mais il y a aussi l'accès aux données. Ça fait 2 ans qu'on accumule des données là, qui sont très intéressantes pour être capable de voir comment on améliore l'offre, l'accès, l'offre de service. Attendons de voir là, la dernière version.
Mais je vous donne un exemple.
Oui.
OK, l'exemple, si mettons là, j'ai mon médecin de famille, ce médecin-là s'occupe également de ma conjointe, mes deux enfants, j'ai un troisième enfant, est-ce que le médecin va pouvoir s'occuper du troisième enfant ou si pour ça, il faut obtenir une dérogation?
La réponse, c'est il n'y a pas besoin de dérogation. J'ai publié cette semaine là, sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle des mythes et réalités, et ça, c'en était une. Le médecin va pouvoir prendre le troisième patient qui est dans le ventre de la jeune maman.
L'autre question qui émane de médecins spécialistes qui me disent que si les infirmières spécialisées décident, par exemple, qu'un cas doit être vu par un médecin, est-ce qu'elles doivent respecter médecin, puis le médecin décide si ça doit aller vers un spécialiste ou si l'infirmière peut aller directement au spécialiste?
Écoutez, si... Revenons à ce que vous m'avez demandé un petit peu plus tôt. S'il y a 5 % des cas, hein, 5 % des cas qu'une infirmière doit référer à un médecin, elle devrait le référer au médecin qui lui fera l'évaluation pour le spécialiste. On ne changera pas les règles tout d'un coup, là. Commençons par 95 % des cas. Parce que, écoutez, là, il faut vraiment travailler à vouloir améliorer l'essentiel. On n'avait même pas ça il y a quelques années. En ce moment, je vous dis, ça répond à 95 % des cas. Alors, travaillons là-dessus pour les premières années.
Parce que, moi, ce que j'entends, puis je veux vous entendre là-dessus, les médecins de famille qui disent, bon, ben là, on va avoir des cas qui vont nous être référés par des infirmières, ça va s'ajouter à notre travail. Là, les médecins spécialistes trouvent que des médecins de famille qui envoient trop rapidement, qui inscrivent trop rapidement des patients. Les spécialistes disent, c'est pas des cas pour nous autres. En même temps, on n'a pas de place pour travailler, les blocs opératoires sont fermés. On assiste à... On se passe la rondelle.
Bien, M. Arcan, moi, j'ai dit que mon prochain défi là, dans l'année 2024, c'était justement les ententes cadres à renégocier avec les deux fédérations de médecins. J'ai la chance, là, entre autres avec le docteur Aluva, pour le citer, d'avoir un excellent climat de travail avec lui en ce moment pour trouver des solutions, entre autres sur le centre de rendez-vous qu'on appelle là, entre un médecin de famille et les médecins spécialistes. Ce que je vous dirais pour aujourd'hui, là, on avance, vous le voyez, là, qu'on est en train de faire exactement le plan de santé qu'on avait préparé il y a 2 ans. Moi, je pense que les gens doivent nous faire confiance, qu'on avance avec les deux fédérations. On est en train de trouver des solutions tous les jours. Puis moi, ce que j'aimerais vous dire ce matin, M. Arcan, ça, c'est bien important pour moi. Je me suis engagé envers les médecins de famille à valoriser leur profession. Mais c'est la même chose avec les infirmières. Pas juste les infirmières spécialisées. C'est une belle nouvelle pour elles aujourd'hui. Mais s'il y a d'autres infirmières en ce moment qui ont un bac, qui décident un jour aller faire leur maîtrise dans une des... On a quoi? 13 universités du Québec qui donnent cette formation-là. Imaginez-vous le potentiel de valorisation pour toutes les infirmières au Québec. On a 80 000 infirmières au Québec, là. Alors donc, on est en train de mettre en place un système qui va améliorer l'accès pour les patients.
Okay.
Puis je pense que tous les partenaires doivent travailler dans ce sens-là.
Là, je vais vous parler des inhalothérapeutes. Il y a des médecins qui me disent que c'est devenu la raison numéro un de l'impossibilité d'opérer dans les hôpitaux. La semaine prochaine, on annule en moyenne 3 salles d'opération par jour au CHUM. Il y a des infirmières qui sont même prêtes à faire du temps supplémentaire. Le problème, c'est qu'il y a un manque d'inhalo. Ils sont même pas capables de rouvrir actuellement le nombre de salles qu'on a en moyenne.
Ben écoutez, c'est un petit peu délicat de vous parler de ça aujourd'hui. Là, comme vous savez, ça fait partie des négociations collectives qui sont en train d'être voté aujourd'hui. J'aimerais mieux différer cette question-là pour quelques
mais on a-tu un manque criant à ce point d'inhalothérapeute?
Oui, c'est sûr que les nouvelles conventions devraient prendre charge de meilleures conditions pour l'avenir des inhalothérapeutes.
OK. L'autre question que je veux vous poser, je regardais ce reportage à Québec, le Jeffrey Hale, qui est une clinique d'urgence mineure, là, qui ont vu 36 000 patients. Le quart d'entre eux ont été traités sans devoir patienter pour un médecin. Y a-t-il moyen de faire ça ailleurs, à travers le Québec?
C'est le mode... Ben, merci de le souligner. Quand je dis qu'on a des beaux succès en ce moment, de 36 000 patients... Moi, je suis allé visiter le Jeffrey Hale, qui est pas très loin de mon bureau à Québec. C'est un très beau succès. Ben, le modèle de ça, c'est ce qu'on veut regarder pour nos mini-urgences qu'on veut faire, entre autres, là, qu'on va annoncer dans les prochains mois. C'est ça le modèle. C'est ça le modèle qu'on veut faire un peu partout au Québec, dont un dans la région de l'Est de Montréal et un dans la région de Québec aussi. Alors, c'est vraiment notre modèle de mini-urgence qu'on appelle.
OK. Donc, ça va ressembler à ça. Si je me demande de quoi ça a l'air, la référence, c'est Jeffrey Hale.
Eh oui.
OK. Dernière question concernant la fameuse bataille privée-publique. Hier, j'avais représentant de la CSN qui m'a dit... Vous voulez attirer, en parlant de vous, là, des gens dans le réseau de la santé. Il y en a au-dessus de 1000, selon ce que vous dites, qui déjà ont levé la main là, pour aller travailler, revenir ou carrément aller travailler dans le système de santé publique. Mais qu'en même temps, vous arrêtez pas de donner des permis pour des cliniques privées, ce qui fait que des gens vont rester au privé, même si vous tentez de les attirer. Est-ce que c'est vrai, d'abord, que vous donnez de plus en plus de permis pour opérer des cliniques privées?
La réponse, c'est non. On a fait... L'an dernier, à peu près ce moment-ci, je vous avais dit qu'il y avait un moratoire.
Ouais.
Moi, je veux attendre d'avoir toutes les négociations terminées. En ce moment-là, on rouvre pas de nouvelles cliniques privées. Moi, mon objectif, c'est de ramener, comme vous avez dit, là, déjà à peu près 1000 personnes sont revenues. Lorsque les conditions, entre autres avec le vote de la FIC des prochains jours, qui a lieu en ce moment, là, jusqu'à demain soir, quand on aura vu l'attraction du personnel, je peux vous dire que ça va faire une grande différence. Alors, j'aimerais mieux m'en tenir à ça, là, parce qu'on s'est engagé, Mme Lebel et moi, de ne pas du tout intervenir dans le vote. On veut que les infirmières votent sur la convention. Après ça, on pourrait s'en parler.
Parce que vous avez un débat là, politique, là, j'oublie les conventions collectives, oui. Là, avec, oui. Par exemple, Québec solidaire, là, qui dit oui. Il faut sortir le privé, il faut tout ramener au public, vous faites des corridors avec le privé, puis que vous maintenez ce milieu privé-là en activité.
Bon, mais regardez, j'ai eu une très, très bonne discussion avec M. Marissal là, il y a quelques semaines au Salon Bleu. Et moi, j'ai dit une chose qui est intéressante avec M. Marissal, c'est qu'on s'entend sur les principes. C'est quoi les deux principes? C'est, entre autres, premièrement, que ça doit être universel. Quand on utilise le privé par le gouvernement, comme on l'a fait pour les chirurgies, entre autres, on a fait plus de 200 000, le Québécois, il paye pas, là. Il présente sa carte d'assurance maladie. Moi, ce que je pense, où on s'entend sur le deuxième principe, c'est que s'il y a des gens qui sont obligés d'aller au privé, est-ce que des tarifs sont trop élevés dans certains cas? La réponse, c'est oui aussi. Alors donc, moi, j'ai dit, on s'entend sur les deux principes, on va regarder ça. Moi, c'est une des choses que je veux, auxquelles je veux m'attaquer dans les prochains mois.
Donc, vous êtes d'accord avec l'arrêt Jordan en santé? Ça, c'est mon nouveau concept, d'être soigné dans un délai raisonnable, sinon vous ramassez la facture.
J'ai dit exactement ça dans le projet de loi 15, M. Arcan. C'est écrit. C'est un des articles du projet de loi. Quand il va avoir les règlements, là, on va être capable de dire, ça fait trop longtemps que vous attendez, vous pouvez aller dans une clinique privée et vous faire soigner, et ça va être payé par le gouvernement du Québec.
Merci, M. Dubé. Bonne journée.
À vous aussi.
Au revoir. Merci. Christian Dubé, le ministre de la Santé.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Parlons des feux de forêt. Hier, on vous disait que le nombre de brasiers des gens d'activité au Québec était anormalement élevé, en tout cas plus que la moyenne des dernières années. On se souvient tous de la saison dernière, les feux qui ont ravagé le Québec. On dit même qu'il y a encore des feux de forêt qui ne sont pas éteints. Et on sait que Chibougamau avait été la région là, particulièrement touchée. Manon Cyr est avec nous, c'est la mairesse de Chibougamau. Madame Cyr, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Êtes-vous en préparation pour la grande saison? Là, c'est quoi votre plan de match pour les prochaines semaines?
On est prêt, Monsieur Arcand. Il faut savoir que l'année passée, étant donné la situation, on a pu tester notre plan des mesures d'urgence dans la mesure extrême, c'est-à-dire d'évacuer nos citoyens. On a, depuis ce temps-là, fait un bilan, fait une mise à jour. On parle avec nos collègues des autres municipalités au niveau de la région également, autant chez les CRI que chez les Jamaïciens. On parle avec la SOFE, les différents partenaires. Enfin, je vous dirais là qu'on finalise la préparation, mais on est prêt.
Qu'est-ce que vous avez appris de l'an dernier, là, qui était une période dure, là, gérer les évacuations, puis en même temps la menace du feu?
Mais la première chose, c'est qu'on a pu tester notre plan des mesures d'urgence puis de voir que ça fonctionnait. On a pu voir c'est quoi le temps réel de sortie. si on avait besoin d'évacuer. Puis aujourd'hui, ben on a peut-être encore des discussions à avoir avec la santé, mais peut-être de faire des sorties différentes si on a besoin. Faire de la prévention, on a parlé avec les gens de la Sauve-feu, eux sont à l'avance, ça vous l'avez déjà souligné, mais on est en train de parler avec eux aussi également par rapport à un diagnostic, comment mieux protéger notre communauté des incendies de forêt. Fait que ça aussi, on est en train de préparer un plan de match avec eux là-dessus. Donc, les choses vont bon train, mais on se prépare pour la prochaine saison.
OK. Dites-moi, quand vous me dites le temps d'évacuation, là, ça prend combien de temps à évacuer? Vous avez besoin de combien d'heures pour évacuer Chibougamau?
Ben, l'année passée, ça nous a pris un beau petit 7 heures, entre 5 et 7 heures, mais dépendamment comment on s'y prend. Mais je vais vous dire, M. Arcan, évacuer Chibougamau, là, ça a été la décision la plus dure de ma vie. Puis c'est pas quelque chose qu'on veut faire. Ça, c'est vraiment le cas extrême quand il y a des conditions. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à ce temps, bon, ben, qu'est-ce qui pourrait arriver? On sait le pire scénario, c'est qu'il faut évacuer tout le monde en même temps. Mais c'est quoi les autres options, dépendamment des différentes situations? Et c'est là-dessus qu'on a travaillé.
À Chibougamau, qui mène? C'est vous ou le gouvernement du Québec quand il arrive ces feux de forêt?
C'est m'annoncer la mairesse de Chibougamau avec son équipe de feu. Moi, j'ai une équipe, M. Arcan, chevronnée. Ils ont une expérience, j'ai des partenaires, autant la Sauve-feu, le ministère de la Sécurité publique. Maintenant, j'ai une direction régionale nord du Québec. J'ai un ministère des Transports, j'ai une société de développement de la Baie-James, j'ai un centre de santé. J'ai l'équipe, puis je suis à proximité du terrain pour prendre les mesures. Ceci étant dit, M. Bonnardel a quand même mis des mesures pour aider. Hein, quand je vais déclarer les mesures d'urgence, si j'ai besoin de le faire, ben j'ai pas besoin de renouveler les mesures d'urgence aux 5 jours, j'ai aux 10 jours. Il a augmenté le budget de la Sauve-feu. Donc, il y a différentes mesures qui sont prises. Sauf que moi, je veux pas faire de débat de compétences. Par contre, faut que je garde mon autonomie. Je veux pas devenir la succursale du ministère de la Sécurité publique. C'est-à-dire, je suis proche du terrain, on a une équipe, on a des gens pour nous soutenir. On est capable de le faire si on a besoin. On a les partenaires gouvernementaux, mais en même temps, s'il y a des municipalités qui ont besoin, ben le ministre a des équipes et veut offrir le soutien nécessaire le cas échéant s'il y a des besoins.
Êtes-vous inquiète pour cette année?
Je suis pas inquiète dans le sens que je suis préoccupée, mais je vais vous dire, M. Arcan, n'importe qui a vécu les feux de forêt dans la dernière année a quand même une petite pensée. Il faut dire qu'à Chibougamau, on n'est pas à Montréal, là, il y a encore de la neige, hein, on est quand même dans le nord. On constate qu'il y en a eu moins que d'habitude, que ça fond quand même relativement bien ces temps-ci. Par contre, l'objectif, c'est d'être préparé. Moi, je contrôle pas la température, mais avec nos différents partenaires, avec nos équipes, on va aussi sensibiliser nos citoyens, se rappeler les bonnes mesures, les bonnes pratiques si on fait, on fait des activités en forêt. Puis on va le travailler, on va continuer à faire le travail qu'on a à faire, mais c'est sûr qu'on a toujours une petite préoccupation.
Parlez-moi de votre monde, là. Vous échangez avec vos citoyens puis vos citoyennes. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils retiennent, eux, de l'expérience de l'été dernier, là, puis du printemps dernier?
Bien là, il y a certains qui voient un peu le long des chemins les arbres qui sont peut-être proches des fils d'hydro. On pourrait-tu avoir des feux qui empêcheraient communication? Des gens disent, bon, maintenant, on est préparés. C'est sûr que les gens ont une préoccupation, mais c'est pas notre sujet de conversation, je vous dirais, à tous les jours. Mais on sent que c'est une certaine préoccupation. Mais on les rassure parce qu'on est préparés, M. Arcan. Puis on fait ce qu'on a à faire avec les moyens qu'on a. Puis on verra la suite des choses. Parce qu'il faut savoir, à Chibougamau, M. Arcan, l'année passée, on a eu des feux extrêmes. Mais Chibougamau, comme tel, on est relativement habitué aux feux de forêt. C'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Vous savez, à Gatineau ou des villes du sud du Québec sont habitués aux inondations. Ben, chez nous, c'est feux de forêt. Mon DG me rappelle souvent, Mme Cyr, à tout le printemps, vous me dites, Manon, Alain, revise ton plan des mesures d'urgence, le mois d'avril arrive. Donc, on est dans cette même habitude-là. Peut-être un peu plus à cheval, je vous dirais.
Ouais.
Mais plus obsédé, mais on se prépare, on est confiant.
Merci, Mme Cyr. Bonne journée à vous.
Bonne journée à vous, monsieur.
Manon Cyr est la mairesse de Chibougamau. Maintenant, on va parler un peu d'économie. Il y a un mouvement parmi des restaurateurs qui s'appelle Au resto sans ma carte de crédit, où en échange d'un rabais, ben, on vous demande de payer soit en argent comptant ou avec une carte débit. Martin Guimont est avec nous, c'est le propriétaire du Saint-Boc sur la rue Saint-Denis, puis il fait partie de ce mouvement-là. Monsieur Guimont, bonjour.
Bonjour.
Expliquez-moi un peu là comment vous souhaitez que ça fonctionne. Donc, les gens sortent pas leur carte de crédit, vous paient avec une carte débit ou en argent comptant. Qu'est-ce qu'ils ont en retour?
Eh bien, nous, on va offrir un rabais de 2%. Je sais que c'est un peu symbolique en réalité, mais les frais de carte de crédit qui sont imposés aux restaurateurs sont vraiment très élevés. On parle de souvent 3,5 aller jusqu'à 5% selon le type de carte de crédit que vous avez. Les cartes de crédit, dans le fond, ont trouvé ce moyen-là avec des points, avec des rabais qu'eux offrent de pouvoir conserver la clientèle puis les faire dépenser de plus en plus sur leur carte de crédit. Ces frais-là, pour nous, représentent des dizaines de milliers de dollars par année. Et souvent, les clients me demandaient dans le passé, parce qu'on a toujours eu de la difficulté, même depuis l'hiver, comment est-ce que je pourrais faire pour aider, exemple, ton restaurant ou aider la restauration? Puis on dit souvent, ben, aller en restaurant, acheter des choses. Puis quand on y pense vraiment, ben, écoutez, faites juste payer par débit ou en argent comptant. Moi, je préfère débit idéalement, là. Et puis, on va vous donner un rabais. Parce que quand les gens paient par carte de débit, les frais sont d'environ 8 sous à 10 sous par transaction. Je donne un exemple. Sur une facture de 100 $, Visa Mastercard va aller chercher environ 5 $30 de frais. C'est énorme. Puis moi, mon grand questionnement, c'est comment ça se fait qu'en tant que restaurateur, j'ai une marge de profit entre 2,5 et 3%, puis que Mastercard et Visa vont faire entre 3,5 et 5%. Ils font plus de profit dans notre propre restaurant que nous, on en fait. Alors moi, je me suis dit, si je peux éviter ces frais-là, bien, je vais les partager avec les clients. Donc, vous qui ramassez des points sur votre carte de crédit, qui est un incitatif de dire, je vais prendre ma carte parce que je vais me ramasser des points, puis dans 8 ans, je vais m'acheter un aspirateur, par exemple, ben moi, je vais vous donner 2% immédiatement dans vos poches. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est plus que ce que votre carte de crédit va vous donner, qui est environ 1,5%. Puis moi, de mon côté, ben ça me fait environ 1,5 à 2% de plus dans mes poches. Fait qu'on est tout le monde gagnant.
OK. Des questions des auditeurs, là. Premièrement, est-ce que ça veut dire que vous allez quand même accepter les cartes de crédit et que la personne n'aura pas le rabais, ou si vous sortez les cartes de crédit de votre restaurant?
Non, les cartes de crédit vont toujours être acceptées. Dans les 86% de nos clients utilisent les cartes de crédit, donc ça va toujours rester, ça va demeurer. Mais quand les gens vont payer par débit ou en argent comptant, ben on va leur offrir un 2%. Puis quand les gens vont payer par carte de crédit, on va leur offrir la possibilité de dire, écoute, si tu changes ton mode de paiement, ben on va t'offrir un 2% de rabais.
OK. Là, réaction encore d'auditeurs qui se voient, OK, je comprends, là, sur une facture de 100 $, c'est 2 $. Moi, quand je paye avec ma carte de crédit, ça me donne des points, des aéroplans, des points pour obtenir des produits, etc., des rabais. C'est tentant de sortir la carte de crédit.
Oui, tout à fait. Mais moi, ce que j'en conclue, parce que tu sais, je ne vous le cacherai pas, j'en ai aussi des cartes à points, puis je me suis rendu compte qu'avec le temps, ben moi, en tant que restaurateur, je préfère, puis je suis bien conscient là, que c'est pas tout le monde qui a nécessairement l'argent dans son compte, en argent comptant, pour être capable de payer en débit. Là. Ça, j'en suis conscient. Mais dans le fond, les compagnies de cartes de crédit contrôlent le nombre de points que vous avez besoin. Ils vous donnent des points qui équivaut à peut-être 1,5%. Ils vous disent que vous allez pouvoir vous acheter des choses avec vos points. C'est eux qui déterminent le prix en points des choses que vous avez achetées. Fait que vous n'avez pas vraiment de contrôle sur ce que vous achetez en réalité. Fait que le nombre de points d'année en année peut augmenter, puis vous avez aucun contrôle. Puis, vous n'avez pas d'intérêt nécessairement sur vos points. Moi, si je vous donne 2%, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est 2% de moins. Si vous payez pas votre compte à la fin du mois, ben vous avez 2 $ de moins d'intérêt. Vous avez 2% de moins à payer sur la TPS, la TVQ. Puis, il y a une aberration que les gens savent pas en réalité aussi avec les cartes de crédit. Quand les gens paient par carte de crédit, les fameux frais de 3,5 à 5%, nous, en tant que restaurateurs, on doit payer ces frais-là sur le tiers de la facture d'argent qui ne nous appartient pas. Je dois payer ces frais-là sur la TPS TVQ. Donc moi, quand un client paie, je donne, par exemple, on va arrondir à 4%, là, je donne 4% de frais de TPS TVQ de plus à Visa Mastercard. Sur le pourboire, je dois payer 4% de frais que je vais donner à Visa Mastercard. Donc, il y a le tiers de la facture des clients auquel je dois payer des frais de carte de crédit d'argent qui ne m'appartient pas du tout et qui ne reviendra jamais à nous.
OK. Merci, M. Guimond. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Martin Guimond est propriétaire du Saint-Boc. C'est une brasserie artisanale sur la rue Saint-Denis. Mais c'est sûr que ça bouge pas mal dans le monde de la restauration parce que c'est clair que les factures sont élevées. Là, on recommencera pas tout le débat, mais... Et t'as le phénomène des gens qui se présentent pas. J'ai encore chaque semaine des restaurateurs qui me racontent cette réalité. Il y en a de plus en plus, ça dépend des types de restaurants, qui vont exiger un numéro de carte de crédit lors de la réservation. Et si vous annulez pas dans un délai raisonnable, ben vous allez financièrement pénaliser. Puis d'un autre côté, l'argent comptant, c'est vrai, on s'en sert de moins en moins. Là, on paie avec nos cartes de plastique. Alors, est-ce que vous allez aller au restaurant et dire « OK, je vais prendre ma carte de débit » puis Pierre-Yves, vous pourrez réécouter sa chronique, mais donner des exemples, autre le rabais de 2%, comment on peut amener, disons, un client à payer avec une carte de débit et donc à ne pas avoir à assumer la facture colossale pour ce qui est des cartes de crédit. On va parler cette fois de ce recours collectif qui a été autorisé contre la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui, vous le savez, est aussi la Ligue, officiellement le nom, le Maritime Québec. Tout ça, c'est relié aux dénonciations de Carl Latulippe. Carl Latulippe, qui a été un choix de première ronde au repêchage de 1994. Il a témoigné dans une entrevue à la presse des sévices qu'il a vécus, donc violence, intimidation, agression, dans ce qu'on appelait les initiations dans le sport, au hockey en particulier. Et c'est Maître David Stolo qui porte le dossier, qui représente Carl Latulippe. Maître Stolo, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Évidemment, quand on autorise un rapport, c'est une procédure, une étape là, qui fait en sorte qu'on élimine les causes qui pourraient être, disons, un peu exagérées. Ça veut dire que vous avez raison de déposer ce recours. On a raison de débattre et de l'entendre. C'est ça que ça veut dire?
C'est exactement ça. Le but de l'autorisation, c'est d'écarter des recours qui sont frivoles ou insoutenables. Puis avec le jugement rendu hier, la Cour confirme notre position à l'effet qu'il s'agit effectivement d'une action qui devait aller de l'avant, qui a de la mérite, puis on nous donne permission de déposer cette action-là sous forme d'action collective.
Bon, ce sont des événements qui se seraient donc passés du 1er juillet 69 jusqu'à aujourd'hui. Comment vous allez faire pour construire la preuve dans un recours comme celui-là?
Mais on a déjà plusieurs éléments de preuve. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais disons que plusieurs membres du groupe nous ont contactés. Il va certainement y avoir d'autres membres du groupe qui vont nous contacter, qui nous parlent de différents événements qu'ils ont vécu, différents abus, qui d'ailleurs sont très, très similaires en termes de thèmes et de comportements. Puis au cours de ce processus-là, nous allons avoir le droit d'interroger des représentants des parties défenderesses. On va obtenir plusieurs autres éléments de preuve. Puis nous allons établir qu'il existait effectivement, puis qu'il existe un système de négligence, je dirais systémique, une culture de silence. Puis au fur et à mesure, on va bâtir nos éléments de preuve.
Je n'ai pas les noms, évidemment, mais il y a combien de joueurs jusqu'à maintenant qui ont levé la main?
Je peux pas dévoiler cette information-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, plusieurs joueurs de différentes équipes, de différentes périodes, ont communiqué avec nous.
Vous avez dit, ça s'est fait sur une longue période, des joueurs qui étaient, selon les époques, dans différentes équipes qui ont vécu ça. La responsabilité de l'équipe, c'est une chose. La responsabilité de la Ligue, c'est autre chose. Comment vous allez établir les responsabilités d'un et l'autre?
Mais regarde, la responsabilité, tout le monde, quant à nous, a une responsabilité en ce qui a trait à la création, la perpétuation d'un système, d'une culture qui fait en sorte que saison après saison, ces abus ont eu lieu, qu'il y avait une connaissance de la part des équipes, qu'il y avait une connaissance de la part des personnes en position de pouvoir au sein de la Ligue, puis que de façon solidaire, toutes ces personnes-là sont responsables à cause de leur manquement, si vous voulez, le manquement de veiller aux intérêts puis de la protection, la sécurité des joueurs pour lesquels ils avaient une responsabilité.
Je cite le juge qui a dit que le fardeau de preuve qui va permettre de déterminer la négligence alléguée, ça va poser un sérieux défi aux demandeurs, donc à vous.
Oui, mais regarde, dans tout dossier qui a une certaine envergure en termes de période, de temps, en termes de nombre de défenderesses, dans tous des dossiers de cette nature-là, il pourrait y avoir des défis. Je ne vois pas ça nécessairement comme étant un défi, je le vois ça comme étant de rassembler les éléments de preuves nécessaires. Mais encore une fois, à partir de toutes les informations que nous avons déjà, puis que toutes les autres informations que nous allons obtenir, d'établir le fait que c'est pas des coïncidences en termes de ces comportements puis de ces abus-là. Alors, je le vois pas à ce stade comme étant une défi insurmontable.
OK. Merci, Maître Stolo. Bonne journée.
Ça fait plaisir.
Au revoir. David Stolo est le représentant de Carl Latulippe, qui est l'avocat qui porte ce recours collectif.
C'est 23.